Je vais vous lire La villa d'en face de Boileau-Narcejac. C'était paru dans un J'aime lire. Chapitre 1. Les nouveaux voisins.
Ça fait bien une heure que Claudette regarde la télé quand tout à coup elle se retourne vers Philippe.
Tu sais, Philou, la télé c'est comme si on regardait le monde avec des jumelles. Tout est beaucoup plus près.
Philippe répond machinalement. Oui, petite sœur.
Il est devant la fenêtre, emmitouflé dans une couverture, et il observe le village avec les jumelles de son père. C'est son jeu préféré depuis 2 jours, depuis qu'il a attrapé une bronchite en tombant dans le puits du jardin. Faut dire qu'elles sont épatantes, ces jumelles. Elles grossissent tellement qu'on peut deviner ce que disent les gens rien qu'en regardant leurs lèvres.
Claudette prend un air boudeur.
N'empêche qu'à la télé, il se passe des trucs plus intéressants que dans le village.
Pas sûr, Claude, pas sûr.
Philippe dirige maintenant les jumelles sur la villa d'en face. Un grand type blond se promène avec son chien loup dans le jardin. C'est un Hollandais. Il est venu habiter là récemment avec sa femme.
Claude, comment s'appelle-t-il le nouveau locataire d'en face, le Hollandais ?
Je ne sais pas, Van der quelque chose. Je l'ai rencontré ce matin, il a dû se blesser, il avait un gros pansement au bras.
Un pansement au bras ? Tu as rêvé.
Là, au bout des jumelles, le Hollandais joue avec son chien. Il fait tournoyer une branche au-dessus de sa tête.
Pas le moindre pansement.
Fais voir !
Claudette bondit comme un chat et s'empare des jumelles.
Ça alors, ce matin, il avait un bras en écharpe, j'en suis sûre.
Philippe a un petit rire.
Tu vois, Claude, il se passe des trucs intéressants dans un village. Un type qui met un pansement pour sortir et qui l'enlève en rentrant dans la maison.
Elle fait mieux que ça, la télé ?
Oui, monsieur, elle fait mieux que ça.
Claudette tourne à fond le bouton du son. C'est l'heure des informations. On parle du hold-up qui a eu lieu la semaine dernière à la banque centrale de Vichy. L'un des gangsters a été arrêté. L'autre s'est enfui avec l'argent volé, mais il est blessé et la police le recherche. Le journaliste de la télé lit un communiqué. La banque centrale de Vichy offre une prime d'1 million d'euros à qui permettra la capture de cet homme. Claudette coupe le son.
Alors Philou, c'est pas intéressant ça ?
Peut-être, mais ça me dégoûte cette histoire de prime. Moi je ne démontrerai jamais personne, même pour 10 millions d'euros.
Une fausse blessure. Il est bientôt 1h30. Claudette doit repartir pour l'école. Du bas de l'escalier, elle crie à son frère.
N'oublie pas ton sirop !
Et la porte claque. Philippe prend son médicament. Il se met au lit pour faire une sieste. Mais il n'arrive pas à dormir. Dès qu'il ferme les yeux, il revoit le puits du jardin noir, profond, glacé. Il a bien failli se noyer en tombant là-dedans. C'était affreux. Si maman avait été là, elle en serait morte de peur. Mais elle est partie chez grand-mère pour quelques jours en les confiant à la voisine.
Il faut absolument que je guérisse avant son retour, pense Philippe.
Il regarde son fauteuil devant la fenêtre et il suspend les jumelles à son cou. Tout de suite, il se sent mieux. Il se dit « Je dois surveiller l'horizon. Je suis un commandant de navire comme papa. » Le père de Philippe est un commandant, un vrai, avec un vrai bateau. En ce moment, il navigue sur un pétrolier quelque part en mer Rouge. Quand il est là, il n'aime pas tellement qu'on joue avec ses jumelles. Elles doivent coûter cher. « Combien ?» se demande Philippe. « 150 euros 300 euros 1500 euros ?» Tout en réfléchissant, Philippe règle les jumelles sur la villa d'en face. « Tiens, le facteur est devant le portail. » Il donne un télégramme à la femme du Hollandais. Elle remercie, referme le portail, ouvre nerveusement le télégramme. On dirait un petit film, il ne manque que la musique. Et voilà le Hollandais qui réplique avec son chien loup. Il lit le télégramme, puis il le déchire et le jette dans la grande poubelle marron. Philippe déplace maintenant ses jumelles pour observer l'école située au bout de la rue. 4h30, dit l'horloge ronde au-dessus de la porte. À la même seconde, l'école s'ouvre et tous les enfants jaillissent en criant de joie. Philippe voit tout de suite Claude qui court vers la maison. Elle a 8 ans, Philippe a 12 ans et ils s'aiment beaucoup. Au moment où Claudette passe devant la villa d'en face, le Hollandais sort de chez lui. Il a le bras en écharpe. Claude s'arrête pile. Elle jette un coup d'œil vers la fenêtre de Philippe et mine de rien, elle se met à suivre le Hollandais. Une demi-heure après, elle arrive rouge et excitée dans la chambre.
« Tu m'as vu, Philou ? J'ai fait le détective. Je peux te dire que Van der Truc est allé à la pharmacie. »
Il a acheté de la liqueur de Daquin. C'est un désinfectant. Il a dit que son chien l'avait mordu.
Quel menteur, dit Philippe. Son chien ne ferait pas de mal à une mouche.
Tu sais, Claude, ce type m'intéresse de plus en plus. Tout à l'heure, il a reçu un télégramme et il l'a jeté à la poubelle. Il faut absolument récupérer ce papier.
Des photos mystérieuses. Le soir, pendant que Claudette regarde la télé, Philippe monte la garde à sa fenêtre. Tout est calme en face. Et puis, soudain, le portail s'ouvre. La Hollandaise tire la poubelle sur le trottoir.
Ça y est, Claude, tu peux y aller.
Claudette s'en va en imitant le bruit d'une mobilette poussée à fond. 5 minutes après, en revenant, elle jette une poignée de boules de papier sur la table. Tiens, le voilà ton télégramme, il y avait juste des épluchures par-dessus. Elle se rassoit devant la télé.
Et Philippe se met au travail, il rassemble les morceaux de télégramme comme les pièces d'un puzzle.
Regarde, Claude, j'ai fini. Claudette se penche par-dessus l'épaule de son frère. Elle lit à voix haute.
Liqueur de Daquin, stop, renseignement chez Lucienne, stop.
Philippe se gratte la tête.
Tu vois, quelqu'un a demandé aux Hollandais d'acheter de la liqueur de Daquin.
C'est peut-être un homme qui est blessé pour de vrai et qui va venir se faire soigner par le Hollandais.
Oui, mais Lucienne alors, qui sait?
Oh, Philou, laisse tomber, c'est trop compliqué. Regardons plutôt la télé, c'est les infos. Il reparle du hold-up.
Un policier montre un portrait robot du gangster en fuite. Il a les cheveux en brosse, une grosse cicatrice sur la figure.
Oh, il est horrible, dit Claudette. On dirait Frankenstein.
Un journaliste annonce que le gangster a été aperçu dans la banlieue de Clermont-Ferrand.
C'est pas très, tellement loin de chez nous, pas vrai, Philou?
Claudette éteint le poste et se glisse dans son lit.
Philou, ces hold-up de la télé, c'est quand même plus intéressant que le faux pansement de Van der Bidule, non?
Peut-être pas, répond Philippe en se couchant lui aussi.
Il éteint la lumière.
Claudette s'endort tout de suite.
Philippe aimerait en faire autant, mais dès qu'il ferme les yeux, il revoit le puits et ça l'empêche de dormir.
Alors il se relève. Il s'assoit dans son fauteuil et il reprend les jumelles. Il les braque sur la villa d'en face. Les fenêtres du premier étage sont encore éclairées.
Tiens, le Hollandais se prépare à projeter des diapositives.
Il installe un écran sur le mur. Sa femme trie les diapos en les regardant par transparence. Elle en met 3 de côté et elle écrit dessus avec un crayon feutre.
Maintenant, le Hollandais passe les diapos.
D'abord, Philippe voit sur l'écran un train de marchandises. Pas un vrai, un modèle réduit avec un wagon citerne, un wagon à bestiaux et un wagon bâché. Celui-là est entouré d'un rond au feutre.
Une deuxième diapo montre un panneau routier avec ces mots.
Direction Nîmes.
Philippe sursaute. Sur la troisième diapo, il a reconnu le célèbre viaduc qui se dresse à la sortie du village. Au milieu de la courbe du viaduc, il y a une croix tracée au feutre.
Le milieu du viaduc, c'est l'endroit où les trains vont doucement à cause de la courbe.
Qu'est-ce que cela veut dire? À cet endroit, un homme pourrait sauter d'un train sans se faire mal.
Dans toutes les pièces de la villa, les lumières sont éteintes depuis un bon moment. Philippe réfléchit encore devant sa fenêtre. Enfin, il murmure.
J'ai compris.
Et il s'endort dans son fauteuil en souriant. Des ombres dans la nuit.
Le lendemain matin, quand Philippe se réveille, Claudette est en train de prendre son petit déjeuner.
« Alors, Philou, dit-elle, tu enquêtes même pendant la nuit ?»
Philippe sort péniblement de son fauteuil, il se sent tout endolori. Il a pris une mauvaise position en dormant.
« Te moque pas de moi, Claude. Je peux t'expliquer le télégramme du Hollandais. Tu te souviens de ce télégramme ?»«
Oui, liqueur de Daquin, renseignement chez Lucienne. Alors ?»
Hier, on a dit que la liqueur de Daquin était peut-être pour un blessé qui venait arriver chez l'Hollandais.
« Eh bien, aujourd'hui, je peux te dire que ce blessé va arriver dans un wagon bâché d'un train de marchandises en direction de Nîmes. »
Claudette est sidérée.
« Comment tu sais ça ?»
Philippe lui raconte en détail ce qu'il a vu cette nuit. La séance de projection, les 3 diapos marqués au feutre.
« Et alors, dit-il, j'ai tout compris. Ces diapos, ce sont les renseignements que le Hollandais doit envoyer à la fameuse Lucienne. Et ensuite, elle va les transmettre aux blessés. »
Claudette siffle d'admiration.
« Pas mal. Maintenant, tu n'as plus qu'à vérifier si le blessé arrive.
Bon courage, moi je vais à l'école. »
Elle attrape son cartable et file dans l'escalier.
N'oublie pas ton sirop, Philou.
Toute la journée, Philippe reste aux aguets. Il surveille la villa. À un moment, le Hollandais sort de chez lui avec le bras en écharpe et un petit paquet à la main. Il a l'air pressé.
Philippe se dit, il va sûrement à la poste pour expédier ses diapositives à Lucienne.
Le lendemain, c'est la Hollandaise qui sort de la villa. Elle s'en va en voiture et quand elle revient, elle sort du coffre une tonne de provisions. Des bouteilles, des boîtes de conserve, des légumes.
Quel chargement, se dit Philippe.
Elle attend sûrement quelqu'un.
Le soir, en rentrant de l'école, Claudette demande.
Dis donc, Philou, il n'est pas arrivé encore, ton bonhomme?
Patience, Clou, des trains de marchandises, il n'y en a pas si souvent.
Claudette laisse Philippe à ses jumelles. Elle prépare à manger, puis elle téléphone à maman.
Tout va bien, ma petite maman chérie.
Mais oui, on se débrouille.
Non, je t'assure, je ne regarde pas trop la télé.
Je t'embrasse.
Puis elle allume la télévision. Aux dernières informations, on annonce que la police a perdu la trace du bandit qui ressemble à Frankenstein. En allant se coucher, Claude déclare.
La télé, c'est tout de même marrant, il y a toujours du suspense.
Tout le village s'endort en même temps qu'elle. Seul, Philippe veille dans son fauteuil. Il est sûr que cette nuit, il va se passer quelque chose. En effet, à 2 heures du matin, une ombre d'hommes se glisse hors de la villa, suivie d'une ombre de chiens. Une heure plus tard, ce sont 3 ombres qui reviennent et qui pénètrent sans bruit dans la maison obscure. Le vrai blessé. Le lendemain, c'est dimanche, il fait un soleil de fête. Là-bas, dans la villa, tout semble dormir. Seul le chien loup gratte ses puces sur le perron. Claudette se glisse près de Philippe. Alors, j'avais raison. Le blessé est arrivé cette nuit. En ce moment, il doit se reposer. Tu sais, Claude, si on ne veut pas le rater, il faut qu'on surveille la villa chacun à son tour. Toute la matinée, Philippe et Claudette se relaient à la fenêtre. Peu à peu, la villa d'en face se réveille. Le Hollandais sort dans son jardin. Il joue avec son chien. Puis sa femme vient cueillir des roses, mais leur invité ne se montre toujours pas. Enfin, un peu avant midi, un homme surgit à la fenêtre du salon. Philippe règle un peu mieux les jumelles, c'est comme s'il recevait un coup au cœur. L'homme a les cheveux en brosse, on voit aussi une grosse cicatrice sur la figure. Et il est blessé, il a le bras en écharpe. Claudette accourt et Philippe lui passe les jumelles. « Je te préviens, Clou, c'est le gangster, le type à la tête de Frankenstein. » Claudette reste un long moment immobile, mais ses mains tremblent. « Ça alors, qu'est-ce qu'on va faire, Philou ? On pourrait prévenir les gendarmes ? Pas question !»« Mais c'est un type dangereux, il a tué un employé de la banque de Vichy. » Laisse-moi, il faut que je réfléchisse. » La journée s'écoule lentement. Malgré sa blessure, l'homme n'arrête pas d'aller et venir comme une bête en cage. Il sort de la maison, il rentre dans la maison, il sort à nouveau dans le jardin. C'est donc ça un ennemi public ? Même de loin, il fait drôlement peur. Il faut dire qu'il est armé. Il a un fusil à lunettes, il l'a sorti de son étui pour le montrer aux Hollandais. Philippe pose les jumelles à côté de lui. Il commence à se rendre compte que ce petit jeu peut devenir dangereux, mais que faire ? Claudette est allée chercher du pain. Quand elle revient un quart d'heure plus tard, elle est très excitée. « Je suis passée dans la villa, il y avait la voiture des Hollandais. »« Ben oui, et alors ?»« Alors j'ai crevé les pneus avec des ciseaux, comme ça ils ne pourront pas s'en aller. » Philippe est consterné. « Mais t'es folle, complètement folle, maintenant ils vont se méfier, ils vont se douter de quelque chose. Ben, »« Je voulais t'aider, c'est tout. » Philippe ne répond pas. Une énorme inquiétude monte en lui. Quelle catastrophe ! Hier il jouait, maintenant ça tourne au drame. Cette nuit-là, il a du mal à dormir. Et quand il se lève le lendemain, le soleil est déjà bien haut. Claudette est partie à l'école depuis longtemps. Elle a laissé un petit mot. « J'espère que tu n'es plus fâché, Philou. » « Non, il n'est plus fâché, bien sûr. » Mais il a décidé d'être prudent et de ne plus regarder la villa avec ses jumelles. Enfin, il va juste jeter un petit coup d'œil, le dernier, c'est juré. Il boit son café à toute vitesse, puis il retourne à sa chambre. Il braque ses jumelles sur la fenêtre, et une terreur glaciale l'envahit. Là-bas, l'homme à la cicatrice le regarde et le vise, lui, Philippe, à travers les lunettes de son fusil. La panique. Philippe, épouvanté, se jette en arrière. Il entend le claquement sec d'une balle sur le mur de la maison. « Mon sang, il me tire dessus. Il croit que je vais le dénoncer. » Philippe hurle. « Non, 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 je ne dirai rien. » Il sait bien que l'autre ne peut pas l'entendre. De toute façon, il ne le croira jamais. « Attends, un peu de sang-froid, se dit-il, faut que je sors de la maison et sans courir. » Mais il court, c'est plus fort que lui. Il traverse le jardin jusqu'au puits. Là, il trébuche et perd ses pantoufles. Il pose les jumelles sur la margelle du puits et il s'agenouille pour remettre sa pantoufle. Il entend alors un second claquement, tout près de lui. Les jumelles ! La balle a frappé les jumelles, elles sont tombées dans le puits. Mais si Philippe ne s'était pas baissé, c'est lui qui aurait reçu la balle, il serait sûrement mort à l'heure qu'il est. « Je n'ai plus qu'une solution, pense-t-il. Allez chez les gendarmes si j'y arrive. » Philippe fait demi-tour juste à temps, car une troisième balle frappe la margelle du puits. Il traverse la cuisine entre ombres et il ouvre la porte qui donne dans la rue. C'est jour de marché. Philippe fonce dans la foule, il zigzague, il se faufile entre les étalages en pensant « Il n'osera pas tirer avec tous ces gens. » C'est vrai, le bandit ne tire plus, il fait pire. « Ouh ! Ouh ! » Philippe entend d'abord des aboiements, puis il se retourne et voit courant sur lui le chien-loup du Hollandais. Il n'a plus l'air gentil, le chien. Ses yeux flamboient, ses crocs luisent comme des larmes. Et il court vite, si vite. Philippe a juste le temps de plonger dans la gendarmerie. En claquant la porte derrière lui, il entend le choc du chien qui vient de s'assommer. Le reste, Philippe l'a vu à la télé avec Claudette. Les gendarmes ont entouré la maison du Hollandais. Les deux hommes et la femme sont sortis main en l'air. Philippe disait... « Tu sais, Claude, c'est eux qui m'ont obligé à les dénoncer. Je ne l'aurais jamais fait sans ça. Et puis, je suis bien obligé d'accepter la prime d'1 million d'euros. Il faut que je rachète une nouvelle paire de jumelles pour papa. » Claudette, elle, répétait. « T'avais quand même raison, Filou. Dans un village, il peut se passer des trucs aussi terribles qu'à la télé. »